Alors, pour ceux qui ont écouté mes deux derniers messages, j'ai fait sur l'amour. Donc, le premier, vraiment, en général, sur l'amour, Dieu nous aime, nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain. La dernière fois, j'ai fait sur le pardon, avec l'épître à Philémon. Alors, ce matin, j'ai envie de faire sur le thème de la parole, de comment est-ce que nous parlons. Voilà. Et je pense que ça va bien avec mes précédents messages sur l'amour. Donc, on peut penser à ça aussi ce matin. D'abord, j'aimerais prier ensemble. Seigneur, on veut se confier en toi. Toi qui changes les cœurs, qui peux nous aider à parler, Seigneur, comme toi tu veux qu'on le fasse. Fais-le, Père, Seigneur, dans nos vies. Remplis-nous d'amour et aide-nous à parler de la manière que toi tu veux qu'on parle. Seigneur, on te prie de bénir ce message, de nous parler ce matin, de faire grandir notre foi en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, on va regarder plusieurs passages, pas mal de proverbes sur le thème du langage. Voilà. Donc ce sera un message thématique. On connaît tous des proverbes. Par exemple, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Je pense que Bruno, tu le connais bien celui-là. Pourquoi c'est le maçon ? Bon, ça veut dire en gros, c'est pas la réalisation qu'on voit, voilà, les compétences d'une personne. On connaît aussi, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, dans le sud-ouest, on dit à point. À point. Voilà. Qui viennent de la fable Le lièvre et la tortue, fait par De La Fontaine. Bon, ça, c'est un truc que j'ai encore besoin d'apprendre. Hein. Voilà. Que si on part à l'heure, on arrive à l'heure, bah, c'est un truc que je travaille encore. En fait, les proverbes sont de courts dictons qui permettent d'expliquer des vérités générales et de bon sens. Le livre des proverbes est un livre de sagesse, comme les Ecclésiastes, Job et Cantique des Cantiques. Le proverbe a été écrit par Salomon dans sa presque entièreté, sauf les deux derniers chapitres. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous enseigner la sagesse, c'est bien Salomon. La Bible dit que pendant sa vie, il était l'homme le plus sage sur la terre. Le langage peut avoir de grandes conséquences, en bien ou en mal. Jacques nous dit dans le Nouveau Testament que la langue est comme un petit feu qui peut dévorer une grande forêt. C'est un petit membre de notre corps qui peut faire de très grandes choses. C'est vrai qu'avec seulement quelques mots, on peut vraiment saper le moral d'une personne. Ou au contraire, avec quelques mots, on peut la rendre tellement heureuse. C'est vrai que le langage a une grande influence. Ce matin, j'aimerais aborder quatre aspects du langage. Retenir nos lèvres, la vérité, la douceur et l'humilité.
Ah oui, on
n'a
pas encore.
Dans 3 minutes. 3 minutes. Je ferais mieux de commencer alors. Alors dans une BD d'Oderzé, le dessinateur écrit « Dieu nous a donné deux fois plus d'oreilles que de bouche. » Et il ajoute « C'est peut-être qu'on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. » Et j'ai trouvé ça pas mal. Dans Proverbe 12, verset 15, il est écrit « Celui qui écoute les conseils est sage. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui peuvent découler quand quelqu'un n'écoute pas suffisamment. En fait, trop parler nous amène au péché, mais celui qui ne parle pas trop se protège, comme c'est écrit en Proverbe 10, verset 19. « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Ah, c'est vrai que quand on parle trop, on a tendance à ne pas écouter l'autre et à répondre avant même qu'il ait terminé de dire sa phrase. Et alors, quand ça arrive, on se sent bête. Pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Quand l'autre finit sa phrase et nous explique vraiment ce qu'il avait en tête, on se sent bête. C'est écrit en Proverbe 18, 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Alors, c'est sûr que toutes choses ne sont pas bonnes à dire. Il faut mesurer les paroles que l'on dit, sinon on risque de blesser inutilement les autres. Tel qu'il est écrit en Proverbe 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Alors, utilisons notre parole pour guérir, pour restaurer, pour honorer, pour faire du bien aux autres. C'est vrai que je pourrais dire tous les défauts de l'autre d'un seul coup, sans mesurer mes propos. Et alors, quel dégât je ferais sur lui? On a tous des défauts et on ne peut pas mettre tous les défauts devant les yeux de la personne, ça serait trop lourd à porter. Il faut aussi mesurer nos paroles devant Dieu et ne pas prendre un engagement devant Dieu à la légère. Comme il est écrit en Proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Si on prend un engagement devant Dieu, il faut qu'il soit mûrement réfléchi et que l'on fasse ce que l'on a dit. Aussi, lorsqu'on parle trop, on est tenté de dire les secrets des autres, alors que cela nous a été confié, nous en particulier. Et si nous le faisons, ben alors on est confus quand notre ami l'apprend. C'est ce que dit ce verset. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Alors c'est vrai que quand on dévoile un secret, en plus d'être menteur, on se fait une réputation de quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. À nous d'être fidèles à ce qu'on a pu dire, à une promesse de garder les secrets. Comme il est écrit, celui qui répond la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Alors je sais que tous ces versets, ça peut paraître beaucoup d'un coup, mais à la fin, on va les revoir et on va prier sur ces versets. On aborde maintenant le deuxième aspect qui est la vérité. Voilà. Proverbe est clair qu'il faut éviter le mensonge, comme c'est écrit en Proverbe 4, 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. En fait, c'est vrai qu'il y a des tentations à vouloir cacher la vérité. Par exemple, on veut protéger sa réputation d'une boulette qu'on aurait faite. On veut éviter à des personnes de souffrir. Mais même ça, ce ne sont pas des bonnes raisons. En fait, le mensonge retombe toujours sur la tête du menteur. Et lorsque les gens l'apprennent, en plus, se sentent trompés et ils perdent confiance. C'est beaucoup ce verset qui dit « Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. » Alors au début, le mensonge, c'est doux. Ah ouais, c'est bon, j'ai réussi à cacher ma faute. Oh, qu'est-ce que je me sens bien. Après, c'est comme si la tête est remplie de gravier. C'est pas grave, le gravier dans la bouche, n'est-ce pas? Après, ça nous retombe sur la tête. Et plus on ment, et plus on veut cacher, et plus on s'enfonce quelque part. J'aimerais illustrer ce proverbe avec l'histoire de Donald Crowhurst. Alors, Donald Crowhurst, c'est un Anglais qui a voulu faire la course en voile, en solitaire, en faisant le tour du monde. Alors, il fait ça pour sauver son entreprise, mais aussi pour réaliser son rêve. Par contre, pour le faire, il faut hypothéquer sa maison et son entreprise. Et alors, ce qui fait que s'il n'arrive pas à terminer sa course, en fait, il va tout perdre. Donc, en fait, il mise tout pour le tout dans cette course. Mais il a un problème, parce que lui, ce n'était pas un pro, c'était un amateur. Il choisit le mauvais bateau, il a le mauvais équipement, aussi parce qu'il n'a pas assez d'argent pour faire ce qu'il faut. Et voilà qu'il se retrouve face à un dilemme compliqué. Il a deux choix. Il abandonne la course, sa maison, son entreprise, tout est perdu. Et c'est la honte. Soit, en fait, il va continuer. Mais s'il continue sa course, il risque de mourir face aux tempêtes. Alors il dit, bon, je vais trouver un compromis, je vais mentir. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il va faire un petit tour comme ça pendant des mois, sur un petit périmètre sur la mer. Il va tourner comme ça, et il va faire semblant qu'il fait bien le tour du monde. Alors il va donner ses positions à la radio, il va écrire dans le journal du bord, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à tel endroit et tout. Il s'enfonce dans le mensonge. En fait, il se dit, mais de toute façon, j'arriverai parmi les derniers. Donc quelque part, les gens ne vont pas trop regarder voilà, mon journal de bord. Il n'y a pas trop de conséquences. Au moins, j'arriverai et puis je ne perdrai pas tout quand j'arriverai à la maison. Je vais juste tourner comme ça. Et puis quand les gens arriveront en Angleterre, je vais juste les suivre et voilà, c'est fait. Mais là, il y a un problème qui arrive pour lui, c'est que tout le monde abandonne la course. Tout le monde abandonne la course. Sauf une personne qui est arrivée, mais voilà, comme il ne part pas en même temps, voilà. Donc, il peut gagner la course, en fait. Et là, tout le monde regarde avec des gros yeux cet amateur qui a pris son voilier et qui est sur le point d'arriver et de faire un exploit. Et là, il se dit, je suis cuit. Parce que là, tout le monde va me regarder. Et ils vont voir ma super chérie. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la honte, la pire honte de tout. Je ne sais pas quoi faire, quoi. Alors, il va prendre une décision dramatique. Ce qui va abandonner son bateau. Et on pense qu'il s'est suicidé, en fait. Donc, voilà ce qu'on veut dire. Un mensonge. Ça commence par un mensonge. Un mensonge. Ah ouais, je fais vraiment le tour du monde. Ouais, c'est ça. Un mensonge. Mais le mensonge finit toujours par nous retomber sur la tête. Il peut avoir des dégâts catastrophiques. Comme est écrit, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Parlons selon la vérité. De plus, le mensonge, ça fait mal aux autres. C'est vraiment un manque d'amour. On abuse de leur confiance pour leur faire croire un mensonge. Et en fait, le mensonge va même à son apogée. Si on dit un mensonge contre une personne, cela s'appelle la calomnie. Si on dit par exemple, voilà, ce gars-là, c'est un grand paresseux, il passe son temps au lit alors que c'est pas vrai. Voilà, ce temps-là, ce gars-là, c'est un lèche-botte de son patron pour avoir une promotion, alors que c'est pas vrai. C'est des choses qui font mal. En fait, ça fait tellement mal que c'est comme une massue, quelqu'un qui nous a frappé sur la tête avec une massue. Ou une épée qui nous traverse le corps. Ou une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Ça fait mal. Et la vérité va plus loin que juste ne pas mentir. La vérité, c'est aussi d'avouer à quelqu'un quand on lui a fait du mal. Comme c'est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et c'est vrai que quand on fait du mal à quelqu'un, la culpabilité nous ronge, on n'est pas bien. Et on a du mal à oublier la faute qu'on a faite à l'autre. Mais quand on lui avoue, on lui demande pardon, la paix s'installe dans notre cœur. Et généralement, la personne nous pardonne. Nous arrivons au troisième aspect qui est la douceur. La Bible est claire que la colère inappropriée est un péché. Bien sûr, il n'est pas mauvais de se mettre en colère pour ce qui est juste. Mais la colère ne doit pas durer longtemps et elle ne doit pas se répéter souvent, car la colère peut nous entraîner facilement au péché. Comme il est écrit en Éphésiens 4, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. » Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On voit que ce n'est pas une colère qui dure longtemps. Un homme colérique commet beaucoup de péchés car il ne se contrôle pas comme il faudrait. En fait, les émotions le poussent à dire des choses qu'il ne croit pas vraiment et qui peuvent blesser. Il aura aussi tendance à garder de l'amertume. Il est écrit « Un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. » En fait, la colère et les disputes viennent de notre disposition de cœur. Si nous avons de la haine, alors nous aurons souvent des disputes mouvementées. Mais si nous avons de l'amour, puisque nous sommes prêts à pardonner, il n'y aura que peu de querelles de la sorte. Comme il est écrit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. J'aime beaucoup cette phrase, l'amour couvre toutes les fautes, on pardonne. Alors, des fois, ça arrive que des personnes se mettent en colère contre nous. Alors, quelle attitude avoir? Alors, afin de faire baisser la température de la cocotte minute, on peut répondre calmement. Car une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Alors, j'aimerais vous partager deux expériences que j'ai faites quand j'étais à Besançon, au nord-est de la France. C'est arrivé au moins deux reprises qu'on se mette en colère contre moi. Une fois, bon, je ne savais pas trop si je pouvais me garer. Bon, enfin, voilà, je me suis garé à un endroit. Et bon, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je me gare là. Pourquoi? Parce que le gars est enragé. Voilà. Il s'est mis en colère. Mais dès que je lui ai dit, je suis désolé, je ne ferai plus. Je ne savais pas. Et là, oh, mais c'est pas si grave que ça. Quand on répond avec douceur, la colère s'apaise. Une autre fois, c'était un accrochage avec ma voiture. Et un motard, alors je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, on s'est accroché. On se met sur le côté, et je sens que la moutarde monte à ses narines. Je dis, Luc, mesure bien tes mots, fais attention. Alors, il a regardé, j'ai rien dit. Il a regardé sa moto, j'ai rien dit. Puis doucement, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose de cassé? Et puis, on s'est arrangé après pour les petits dégâts. En fait, c'est vrai que le comportement d'un homme est contagieux. Il est écrit, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Alors c'est vrai que si quelqu'un se met en colère, on sera tenté de se mettre en colère. Mais si on reste calme et en paix devant quelqu'un en colère, cette personne-là va s'apaiser. Dieu nous appelle à répandre la paix de Jésus-Christ qui surpasse toute compréhension. Et la colère, entre nous, ça ne marche pas vraiment. Je sais pas vous, mais... Des fois, quand on se met en colère contre nous, ben, on se braque et on ferme les oreilles. Et quand on ferme les oreilles, ben, la personne, quand elle parle, c'est comme si elle ne nous disait rien. Mais, par contre, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. La douceur peut faire de grandes choses, bien plus que la colère. Le dernier aspect que j'aimerais aborder, c'est l'humilité. Il est écrit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alors Dieu nous appelle, bien sûr, à l'humilité. On ne peut pas dire, je serai riche, je serai célèbre, je serai écouté. En fait, on ne sait même pas ce qui se passera demain. En fait, un jour, on peut tout perdre, on peut perdre son travail, sa réputation, son influence sur les autres. Seul Dieu sait ce qui se passera dans le futur. Et seulement, si Dieu le veut, nous pourrons avoir ces choses-là. Un autre proverbe, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. En fait, ce n'est pas à nous de proclamer nos qualités. Ce n'est pas à nous de nous mettre en avant. Effaçons-nous, élevons Dieu et les autres. Et si quelqu'un met en avant nos qualités, tant mieux pour nous. Mais ce n'est pas à nous de le faire. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. En fait, c'est comme, voilà, il y a quelqu'un qui dit, ah, je vais te faire des cadeaux, mais ne le fais pas. Alors c'est comme en Israël, des fois il fait très très chaud, il y a un nuage qui apparaît, on se dit « Ouais, chouette, de la pluie !» Non, le nuage il s'en va, il n'y a pas de pluie. En fait, c'est une promesse, quelque part, mais qui fait mal parce que la personne ne tient pas sa parole. Respectons nos promesses. Dieu nous demande, donc en conclusion, Dieu nous demande de faire attention à notre langage qui peut avoir de grandes conséquences en bien ou en mal. Nous avons vu quatre aspects. Le premier, c'est de retenir nos lèvres. Écoutons les autres, gardons les secrets, faisons attention à ne pas blesser en vain et faisons attention si on prend un engagement devant Dieu. Le deuxième aspect, c'est la vérité. Évitons le mensonge, car ça entraîne des conséquences néfastes. Évitons la calomnie et avouons nos fautes. Troisième aspect, la douceur. Évitons tant que possible la colère. Soyons remplis d'amour, car ainsi nous pourrons pardonner. Répondons avec douceur à ceux qui sont en colère pour les apaiser. Le dernier aspect, l'humilité. Soyons humbles, ne proclamons pas nos qualités, ne vantons pas notre futur, ne promettons pas faussement des cadeaux. Alors juste peut-être une illustration pour nous encourager tous à, on va dire, à confier notre langue au Seigneur. Alors il y a une illustration par exemple. Si je donne un cadeau, je sais pas moi, à Gérard, je donne un cadeau. Enfin, je te donne une brosse à dents.
Pas terrible hein, comme cadeau.
Non, non, mais c'est une belle brosse à dents, elle est jolie.
En or.
Puis il en est tout fier quand il vient à l'église, elle est dans toute blanche. Voilà. Je lui donne une brosse à dents. Puis j'ai dit, et un peu plus tard, je reviens vers lui, j'ai dit, Gérard, j'ai ma tante qui vient d'arriver des États-Unis, et puis j'ai besoin de ma brosse à dents, alors que je t'ai donnée. Est-ce que je peux la reprendre? Ben, lui, il va dire, bah oui, il a un bon cœur. Je reprends la brosse à dents. Donc ma tante l'utilise, se lave les dents avec. Elle se lave les dents avec. Et après, je dis, Gérard, tiens, vas-y, la brosse à dents. Et Gérard va faire dégoûtant. En fait, c'est des fois ce qu'on fait avec Dieu. Quand on est venu à Dieu, on a dit, Seigneur, mes oreilles t'appartiennent, mes yeux t'appartiennent, mon corps t'appartient, ma langue t'appartient. Et des fois, ce qu'on fait, c'est que on dit, Seigneur, je t'avais donné cette langue, mais j'en ai besoin, tu peux me la donner. J'ai juste emprunté. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette langue? On répand des commérages, on dit des ragots, on dit des choses fausses, on enseigne des choses fausses, on fait du mal. Et après, on revient vers Dieu, on dit, Seigneur, je te la redonne. Puis Dieu, il est là, arc. Il dit, Seigneur, je te la redonne pour te louer. Le Seigneur, il regarde cette brosse à dents. Il dit, franchement, t'as vu ce que t'en as fait? Et tu me la rends? Ouais. C'est sûr que ce n'est pas un beau cadeau qu'on rend au Seigneur. La langue a une influence énorme. Comme dit Jacques, un petit feu peut embraser une grande forêt. Un petit gouvernail peut contrôler un paquebot. Un petit morse dans la bouche d'un cheval peut contrôler le très grand cheval. Notre bouche a une grande influence. Ouais. Alors, pour nous tous, utilisons sagement notre langage. Réfléchissons bien avant de parler. Est-ce que j'enseigne la vérité? Est-ce que je donne un conseil qui vient de Dieu? Est-ce que ce que je dis encourage ou détruit? Est-ce que j'ai raison de parler de telle ou telle manière de cette personne-là? Qui c'est qui utilise ma langue maintenant? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable? Réfléchissons à tout ça. Que le Seigneur nous aide à utiliser correctement notre langue. J'aimerais finir avec les proverbes. Quelques proverbes, parce que c'est vrai qu'on est allé assez vite. Donc, pour se rappeler ces proverbes. Celui qui écoute les conseils est sage. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Alors c'est sûr que quand on voit tout ce que Dieu nous demande dans sa parole, sur notre façon de parler, on peut se dire, ça fait beaucoup de choses, quand même. Et je pense qu'on est tous ce matin, Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre, et on voit que dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à notre parole. Alors vraiment, ce qu'il nous faut faire, c'est vraiment s'appuyer sur le Dieu tout-puissant, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Notre Dieu est tout-puissant, et il peut agir en nous, pour nous aider à parler correctement. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer ce matin, c'est d'avoir un moment de prière. Remettons notre langue à Dieu.